Alors aujourd'hui, donc, nous sommes le samedi 6 septembre. Et pour ceux qui étaient là la dernière fois, qu'est-ce qui était là la dernière fois, c'est-à-dire début août, quelques-uns. Bon, aujourd'hui, dans cet enseignement, le but, c'est de continuer à donner une clé essentielle de la délivrance, c'est la prière. Parce que on remarque que, en tout cas, c'est peut-être semble pas votre cas, mais ceux qui cherchent la délivrance ont tendance à chercher des prières qu'ils vont réciter un peu comme de la magie, vous voyez, une prière qui marche. Alors, ça n'existe pas, hein. Les prières qui marchent, c'est la foi qui marche. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il y a un grand danger dans le domaine de la délivrance de faire ce qu'on appelle de la magie blanche. Vous faites de la magie dès que vous comptez que ce soit une formule qui débloque une situation. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Alors, la prière, ça n'est pas une formule. La prière, c'est un cœur à cœur. C'est vrai que dans l'Évangile, à un moment, vous m'entendez bien tous? Dans l'Évangile, à un moment, les disciples n'ont pas réussi à faire un exorcisme. Puis, le papa du garçon qui était possédé demande à Jésus, enfin, pourquoi ils n'ont pas pu, tes disciples? Les disciples vont demander à Jésus. Jésus va répondre, ce type d'esprit ne se chasse que par la prière. Et certaines versions disent le jeûne. Alors, la prière, oui, mais quelle prière? Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. La dernière fois, on avait vu que la prière, c'était un élan du cœur vers Dieu, mais Dieu qui est notre Père. Dans la prière, nous nous recevons comme enfants de Dieu. La prière, c'est un temps d'amour, autrement dit. La Sainte Vierge, dans ses apparitions, elle dit, mais priez avec le cœur. Peu importe si vous avez dit un rosaire, trois rosaires, 10 rosaires, ce qui importe, c'est votre cœur. Moi, je me rappelle le Père Claude, Fraternité Marie-Reine, saint prêtre, qui disait « Moi, j'arrive même pas à dire un « Je vous salue, Marie » en entier. » Parce que c'est trop fort. Bon, enfin, chacun, on en est là où on en est, hein. Mais si ce message, vous le recevez, c'est pas mal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des conditions de la prière. Et nous parlerons après de concrètement, comment prier. Alors, les conditions de la prière, les portes d'entrée de la prière, évidemment, la première porte d'entrée, c'est quoi? Bon, en fait, la prière, c'est un don de Dieu, d'accord? On prie parce que le Saint-Esprit prie en nous. Ben oui, ça, c'est un don de Dieu. Mais on va voir aujourd'hui comment, on va dire, se disposer à accueillir et à mettre en œuvre ce don du Seigneur. Alors, premier moyen, et ça c'est nous. Et si nous calons dans l'un de ces moyens, alors là, la prière, ce sera des formules qui n'auront pas beaucoup de sens. Premier moyen, c'est évidemment la foi, l'espérance et la charité, les béatitudes théologales. On va commencer par la foi. Je cite Sainte Thérèse d'Avila. Imaginez qu'il y a au-dedans de nous un palais magnifique, tout d'or et de pierres précieuses. Digne en un mot du grand monarque qui l'habite et songez, ce qui est vrai, que vous concourez à lui donner cette magnificence. Imaginez-vous que le roi des rois est dans ce palais, que dans sa bonté infinie, il veut être votre père, qu'il est assis sur un trône de très grand prix et que ce trône, c'est votre cœur. Lorsque nous entrons dans la prière, par la foi, nous entrons dans cette présence devant le roi des rois qui habite notre cœur. Saint Augustin, tu es plus intime à moi que le plus intime de moi-même. Et pourtant, tu es au-dessus du sommet de mon âme. La foi qui fait que nous allons faire un pas, dire Seigneur, tu es là. J'entre en ta présence. Tu es là et tu m'attends. Il nous attend. Il y a une belle image qui dit que lorsque nous allons prier, c'est un peu comme si, vous savez, quand vous êtes en avion, vous allez dans un lieu que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qui va se passer, est-ce que quelqu'un va vous accueillir? C'est un peu ça. Vous rentrez dans le silence du cœur, eh bien Dieu vous attend. Dieu nous attend. Il est celui qui nous attend. Et nous rentrons dans sa présence. Le deuxième geste intérieur, c'est celui de l'espérance, évidemment. Je vous conseille le psaume 83. Enfin, je vous conseille tous les psaumes. Le psaume 83. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux, écoutez bien, heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Amen. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Autrement dit, il n'y a pas d'impasse en Dieu. Si vous avez l'impression d'être dans une impasse, eh bien, entrez dans la prière et proclamez la victoire de Jésus. La petite Thérèse qui dit « Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, et c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. » L'espérance, pas d'impasse. Alors allons-y. Lorsque nous partons prier, pas réciter les formules, hein, on est d'accord, prier, eh bien, nous savons que c'est gagné. Tout est gagné. L'espérance. Et enfin, la charité, bien sûr. La charité qui va s'exprimer, et ça c'est très important. Bon, on n'aime pas trop ce mot. Il n'est pas tellement connu finalement, c'est la crainte de Dieu. Ça vous dit quelque chose, la crainte de Dieu? Ça ne veut pas dire la peur de Dieu, bien sûr. La crainte de Dieu. Rappelons-nous la première théophanie. Enfin, j'entends la théophanie sensible. Vous la trouvez dans l'Exode. C'est le buisson ardent. Moïse fait un détour. Et le Seigneur l'appelle. Et il lui dit, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alors, frères et sœurs, il s'agit de retrouver la crainte de Dieu. Celui vers qui nous allons, il est Dieu. Et il s'agit, comme dans l'Apocalypse, et comme dans l'Évangile, et comme dans toute la Bible, de savoir nous prosterner devant lui. Le démon ne peut pas se prosterner devant Dieu. Nous allons nous prosterner devant lui. Alors, je vais me plaindre. Je regrette que dans pas mal d'églises, on ait enlevé les prie-Dieu. Parce que si vous vous asseyez tout de suite, et c'est votre mode de prière, vous êtes plutôt dans la méditation priante. Vous n'êtes pas vraiment rentré dans la prière. Ce qui nous fait rentrer dans la prière, c'est de se prosterner. Alors normalement, lorsqu'il y a la présence réelle, en entrant dans l'église, on fait une genuflexion. On l'a un peu perdu, ça. Mais c'est une bonne habitude. Pourquoi ? Parce que si vous mettez au moins un genou à terre, c'est que vous reconnaissez que Dieu, il est Dieu. Et devant Dieu, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Philippiens 2. Alors nous, quand on arrive, bon, voilà, devant le Saint-Sacrement, etc. Vous voyez, il y a un truc qui cloche, il ne faut pas s'étonner qu'on a du mal à prier. Parce que la prière, ça commence par le don de crainte. Je me prosterne devant lui. Je reconnais que il est Dieu. Vous savez, quand j'étais en Afrique, j'ai été marqué par une visite dans un village où il y avait un roi. Ça existe, le chef de village. On dit qu'il était roi. Et les gens se prosternaient devant lui. Bon, moi non, j'avoue. Je vais serrer la main. Il faut que nous retrouvions ce sens de l'amour. L'amour s'abaisse. C'est une des définitions de l'amour chez la petite Thérèse. Pour que l'amour soit satisfait, il faut qu'il s'abaisse. Et qu'il s'abaisse, mais jusqu'au néant, pour transformer en feu ce néant. C'est ce que Dieu fait devant nous. Et pourquoi on ne ferait pas, nous, un petit geste pour s'abaisser devant lui. Voilà. Alors, rappelons-nous aussi à Fatima que avant les apparitions de la Sainte Vierge, il y a eu l'apparition de l'ange. Et l'ange, on est en 1916, son premier geste, c'est un geste d'adoration. Il se met à genoux, il courbe le front jusqu'au sol. Et les enfants vont l'imiter. Ça, c'est la porte d'entrée. Savoir se mettre à genoux et se courber, front contre terre. Pourquoi ? Isaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et vos chemins ne sont pas mes chemins. » Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il y a un saint pas très très connu, mais il gagne à être connu fin 19e, Pierre-Julien Aymard. Il a fondé les Pères du Saint-Sacrement. Il faut savoir se mettre à genoux devant Dieu afin d'être libre devant l'homme. Sinon, c'est devant l'homme que l'on finit par se mettre à genoux. Alors, sachons retrouver l'attitude de prière. Et ça, c'est une clé. Alors, effectivement, on ne serait pas complet si on ne rajoutait pas un deuxième mode de l'amour, qui est aussi un don du Saint-Esprit. Après le don de crainte, il y a le don de piété filiale, qui fait que vous allez dans les bras de votre Père. C'est ça, la piété filiale. N'ayons pas peur d'aller dans les bras de Jésus. Son cœur, il est ouvert. Vous voyez, souvent, les statues du Sacré-Cœur, Jésus a les bras ouverts. Il attend que nous nous jetions dans son cœur. Et ça, eh bien, c'est le don de piété filiale. C'est vrai qu'il faut être comme un petit enfant pour cela. Vous savez, l'abbé Bélière était un des deux pères amis, prêtres amis de Sainte Thérèse de Lisieux. Il disait, moi je me sens tellement misérable que quand je viens vers Dieu, vers Jésus, eh bien, j'ai tout juste envie de me prosterner et c'est tout, quoi. Parce que je me sens misérable. Même si, dit-il, il y a un premier élan du cœur qui dès que j'ai envie de me jeter dans ses bras. Réponse de la petite Thérèse. Écoutez le premier élan de votre cœur et jetez-vous dans les bras de celui qui n'est qu'amour et miséricorde. Voilà. La charité qui nous porte vers le Seigneur et cette charité qui fait que nous avons le désir de Dieu. Il y a en nous un désir. Bon, on ne va pas développer l'aspect philosophique du désir ontologique. Je vous embête avec des mots compliqués. Nous sommes tous habités par un désir fort. On ne peut pas se contenter juste d'un bien-être matériel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, si vous êtes ici, c'est que vous en êtes convaincu, j'imagine. Il y a en nous une soif plus grande, qu'il s'agit aussi, on va dire, de réveiller. Parfois, je vous raconte cette histoire. Pardon, je la raconte encore. C'est un apophthegme des pères du désert. On est au 4e siècle, 5e siècle de notre ère. Un jeune novice demande à son père spirituel « Comment fait-on pour prier ?» Tous les deux se trouvaient au bord d'une rivière et le vieillard saisit la tête du novice et la plongeant dans l'eau, il la maintient un long moment. Lorsque le jeune put se dégager de cette terrible étreinte, il aspira profondément l'air et le vieillard commenta. « Ta vie dépend de cette respiration. Quand tu désireras Dieu comme tu as désiré cette bouffée d'air, alors tu prieras véritablement. » On y est. Désir de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Vous avez reconnu cette parole de saint Augustin dans ses confessions. Et saint Jean de la Croix, plus Dieu veut donner, plus il fait désirer. N'hésitons pas à mettre à jour ce désir. Qui d'entre nous n'a pas le désir d'un amour fort, qui n'est pas passager? Qui de nous ? Ne nous contentons pas de ce qui ressemble à l'amour et qui n'est pas de l'amour. Il y a en nous un désir plus fort. Et nous le savons si, pour ceux d'entre vous, d'entre nous, qui se sont trompés en amour, je croyais aimer, mais en fait, je n'aimais pas vraiment. Parce qu'il y a l'amour en grec philotia, l'amour de soi. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi, je t'aime parce que tu es très sympathique pour moi, moi, moi. C'est pas de l'amour, mais le problème c'est qu'il faut à peu près 5 ans en moyenne pour se rendre compte qu'on s'est trompé. Bon, s'il y a un peu de ça en nous, eh bien nous pouvons, gloire à Dieu, nous pouvons nous convertir et aimer, oui, en laissant Jésus aimer en nous, car c'est le secret de l'amour. Est-ce que j'ai accueilli le Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie? Ou est-ce que c'est moi qui me sers encore, y compris de Dieu, pour mes affaires? Non. Non. Nous allons servir Dieu. Le langage des âmes, c'est leur désir, disait Grégoire le Grand, qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps. Le désir de Dieu. Voilà. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, psaume 41. Psaume 61. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Voilà. Ça, c'est la première porte. Lorsque nous prions, eh bien, activons la foi, l'espérance et cette charité envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment ? De tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Et cet amour que nous allons exprimer pour Dieu, eh bien, c'est notre désir aussi de lui. Et c'est parce que nous allons nous prosterner devant lui. Il est notre Dieu. C'est pas juste un copain. Oh, une force supérieure. vous savez, comme dans les exercices de zen, de yoga, on n'est pas du tout dans la même démarche. Nous rencontrons une personne que nous aimons, parce que l'amour a déjà été infusé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, activons l'amour. Oui, ça c'est la porte d'entrée de la prière. Il y a une deuxième porte d'entrée, c'est l'écoute. Vous savez, bon, comme vous le savez, j'ai vécu assez longtemps en communauté. Nous, en béatitude, notre spiritualité, c'était l'oraison, donc le Carmel. Et ça pouvait arriver que les uns et les autres, devant Jésus exposé ou dans notre oraison, il ne se passait plus rien. Le calme plat. Alors, là, il y a une clé, quand on a activé évidemment les autres clés, d'accord, il y a une clé que j'ai envie de vous partager, parce que ça m'a sauvé personnellement, c'est la parole de Dieu. Parce que si nous restons soit avec des révélations privées, qui sont bien en soi, mais si la parole de Dieu c'est numéro 2, 3 ou 4 dans votre vie, votre prière, à un moment, ce sera un monologue avec vous-même. Et on finit par s'ennuyer. Moi, voilà ce que je ressens, j'ai pas de chance, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait raconter, vous voyez. La parole de Dieu va réveiller nos cœurs et nos âmes. J'ai vraiment envie de vous donner ce message. Personnellement, ça a été un virage dans ma vie à moi, mais bon, voilà. Et on comprend pourquoi, d'ailleurs, le premier commandement, c'est quoi ? Avant même tu aimeras, c'est écoute Israël, chemin Israël, Deutéronome 6. Alors, le psaume numéro 1, qui est magnifique. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Murmure sa loi jour et nuit. Donc là, vous avez une clé. En français courant, ça s'appelle la lectio divina. Parce qu'il ne suffit pas de lire la parole de Dieu quotidiennement. Ça ne suffit pas. Parce que ça peut être un exercice intellectuel parmi d'autres. Il s'agit de l'intégrer. Qui murmure la loi du Seigneur. Se plaît dans la loi du Seigneur. Ça, c'est la lectio divina. Alors évidemment, si nous voulons prier et que nous ne sommes pas tout à fait décidés à suivre la loi de Dieu, du style, bon, je prends tous les commandements sauf certains qui me gênent un peu. Par exemple, troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Bon, comprenez, mon père, le dimanche, j'ai autre chose à faire. Bon, d'accord, troisième commandement. Il y a le quatrième, il y a le cinquième commandement, bon, dans l'avortement, bon, bah, comprenez, mon père, on voit bien que vous n'avez pas d'enfant. Non, attendez, on prend tout. L'avortement est toujours un crime. Ok ? Bon, le sixième commandement, par rapport à la pureté, il est entier. C'est-à-dire, on vit quand même dans un monde un peu décadent. Et pour nous, c'est facile, nous qui fréquentons l'Église, plus ou moins, mais c'est facile, de nous laisser entraîner dans un esprit qu'on va appeler l'esprit du monde. Donc, attention aussi à l'esprit de chasteté. La façon dont nous allons traiter notre corps et aussi faire voir notre corps aux autres. La pureté. Enfin bref, je ne fais pas de dessin. Donc, vérifions que nous avons fait alliance avec Dieu. Sinon, si vous priez en disant bon, « je vais essayer ça », parce que sinon, je vais voir mon magnétiseur et il va essayer autre chose. Non, on est à côté de la plaque. Dieu est Dieu. Et nous, notre choix, ce n'est pas celui de nos parents et ancêtres, d'Adam et Ève, qui ont choisi de ne pas écouter Dieu. Notre choix, c'est d'écouter Dieu. Donc, fréquenter la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Et qu'est-ce que je vais mettre en pratique aujourd'hui sur tout ça? Et puis, ne pas oublier les commandements. Alors, il y a les 10 commandements, bien sûr, mais résumés par Jésus dans les 2 commandements de l'amour. Mais il rajoute le commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors, si vous ne savez pas quoi dire dans la confession, parce que, comme le jeune homme riche, tout ça, vous l'avez fait déjà, tous les commandements, prenez juste le commandement nouveau. Vous allez voir, vous aurez des choses à dire. Parce qu'on a tous des choses à dire. Oui, Seigneur, nous cherchons à aimer, mais pardon, parce que nous aimons mal. Notre amour n'est pas encore puni. Oui, je vous donne des idées, hein, si vous avez... Voilà, alors, cette deuxième clé, qui est celle de l'écoute, et si je veux écouter, il faut évidemment faire silence. Ça, c'est assez dur, faire silence. Bon, c'est facile de se taire, d'éteindre la télévision, la radio, tout ça. Supporter le silence, l'aimer. Vivons dans un monde... C'est souvent un monde de bruit. C'est déjà raconté que, bon, moi j'ai acheté une voiture il y a maintenant 6 ans. Quand je mets le contact, il y a la radio qui se met en route. Franchement, j'ai pas envie, moi. Mais voilà, on vit comme ça. La radio, la télé, allumée. Et si c'est votre cas, faites attention. Parce que vous risquez de perdre la prière. En tout cas, l'accès à la prière. Parce que il faut savoir effectivement faire silence. Alors, on a fêté Mère Teresa hier. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire quelque chose que vous connaissez par cœur, sans doute. Un extrait des Constitutions des missionnaires de la charité. Le fruit du silence. Et la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Et le fruit de l'amour est le service. Je vais vous lire ce qui est avant, parce que ça c'est connu. Ce qui est avant, c'est pas très connu. Nous avons besoin de silence pour être seul avec Dieu, pour lui parler, l'écouter, pour méditer ses paroles profondément dans nos cœurs. Nous avons besoin d'être seuls avec Dieu dans le silence pour être renouvelés et être transformés. Le silence nous donne une nouvelle façon de voir la vie. En lui, nous sommes remplis de l'énergie de Dieu lui-même qui nous donne de faire toutes choses dans la joie. Le silence est à la racine de notre union à Dieu et de notre union les uns avec les autres. Sans lui, toute notre vie comme missionnaire de la charité s'effondrera. Car le fruit du silence est la prière, Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Et le fruit de l'amour est le service. Voilà. On a écouté Mère Teresa. Voilà. Ça, c'est la deuxième porte. Donc, première porte, foi, espérance, charité, le désir de Dieu, la crainte de Dieu, spontanéité, cette familiarité avec Dieu. La deuxième porte, c'est celle de l'écoute. Ça se font trier les informations, sommes submergés d'informations, même dans le domaine religieux. Première place à la parole de Dieu. Première place. Troisième clé, c'est l'humilité. Pas de prière sans humilité. Voilà. L'humilité qui est une position devant Dieu. Oui, nous allons reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est important. L'humilité, c'est cette position qui fait que nous sommes sous le regard du Père. Il nous aime. Alors, si nous sommes humbles, si nous nous approchons de l'humilité, nous savons reconnaître nos talents. Attention à la fausse humilité. Où on dit, oh, de toute façon, moi je suis nul, je fais rien de bien. Cette espèce de généralisation, c'est une forme d'orgueil. D'ailleurs, c'est assez dépressif. L'humilité fait que nous allons reconnaître ce que nous sommes, avec tout notre potentiel. Mais évidemment, l'humilité nous fait reconnaître aussi ce qu'on appelle le vieil homme, vous voyez, en nous. Le vieil homme en nous. Mais attention, souvent on se trompe. Il y a des gens qui me disent « moi je ne vais pas me confesser parce que je trouve ça humiliant ». En fait, il y a une erreur identitaire qu'on fait souvent. Saint Paul nous dit que nous sommes hommes nouveaux, nous sommes nés de nouveau. En milieu catholique, on n'insiste pas peut-être suffisamment dans le milieu évangélique, je suis né de nouveau, etc. Ils ont raison. En Christ, nous sommes nés de nouveau. Mais effectivement, il y a en nous ce que Saint Paul appelle le vieil homme. Nos mauvaises tendances. Alors, ça aide effectivement de les repérer, nos mauvaises tendances. Et quand nous les repérons, ce n'est pas une mauvaise humiliation, vous voyez. Ça nous aide de les repérer pour y renoncer. Mais en renonçant au vieil homme, eh bien, nous sommes fidèles à nous-mêmes finalement, puisque le vrai moi, dit saint Paul, est caché avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Vous voyez, c'est très important de ne pas se tromper au niveau de son identité. Quand on dit « je suis nul », bon, on se trompe sur son identité. Oui, dans notre vieil homme, nous sommes nuls. Et on va vers le bas. Oui. Mais Dieu a fait de grandes choses en nous. Il fait des merveilles. C'est pas pour rien qu'on va prier le Magnificat tous les jours. Le puissant a fait pour moi des merveilles. C'est magnifique. Voilà. Cette humilité est une clé de la prière. Ça va donc être pour nous le sacrement de réconciliation. Si vous n'arrivez plus à prier, ou si vous avez du mal à prier, posez-vous la question de la fréquence de ce sacrement dans votre vie. Alors, je vous fais un petit rappel pour ceux qui connaissent, qui ont entendu parler des apparitions de la Sainte Vierge à Medjugorje. Elle conseille de se confesser minimum une fois par mois. C'est bon? Une fois par mois. Mais n'hésitez pas à vous confesser plus souvent, dans la mesure du possible. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre prêtre. Vous savez, on est très content de confesser aussi, nous les prêtres. Parce que le curé d'Ars, il a dit, si un jour j'étais triste, j'irai me confesser. Si un jour j'étais triste, j'irai me confesser. Vous voyez, rien à voir avec cette espèce de fausse route où on va se confesser parce qu'il faut, il y a qu'à, etc. Non, ça ne les intéresse pas. La confession, c'est le lieu de la rencontre du cœur de Jésus. Son cœur est ouvert. Nous allons le rencontrer. Voilà. L'humilité, la vraie humilité, qui fait que nous allons nous situer effectivement sous le regard de Dieu. Et non pas sous notre propre regard. Ce qui va souvent bloquer notre prière, c'est que nous sommes empêtrés dans nos pensées à nous. Notre regard sur nous-mêmes, il est parfois, souvent éventuellement, trompeur. Alors, notre regard va gêner notre prière. L'humilité qui implique la vertu de simplicité. Vous vous rappelez la vertu de simplicité qui consiste à vivre sous le regard de Dieu. Non pas sous votre propre regard ou le regard des autres. Non, sous le regard de Dieu. Alors, il y a un petit truc concret si vous avez envie d'y penser au jour le jour. Dans votre salle de bain, collez une petite photo de la Sainte Face sur votre glace de salle de bain. Ça sera un rappel que vous allez vous regarder à travers le regard de Jésus. Bon, si vous avez envie. Voilà. Alors, autre attitude essentielle pour entrer dans la prière. La persévérance. Parce que, vous savez, la prière, c'est un peu comme le sport. Si vous reprenez les abdominaux après avoir arrêté pendant 10 ans, ça sera un peu difficile. Mais il va falloir persévérer. La prière, il y a un petit côté comme ça quand même. Pourquoi ? Parce que si vous lisez les maîtres du Carmel, ils vous disent que la prière, c'est aussi un chemin où nous allons changer. Parce que Dieu nous travaille. Alors au début, ça peut être l'euphorie, alléluia, on va passer 4 heures d'adoration sans voir le temps passer. Bon, j'en connais. Bon, mais après, il peut y avoir une traversée de désert, d'accord ? Et là, il y a une éducation. Est-ce que c'est comme si Dieu nous disait, bon, tu ne me sens plus. Si tu avais des visions, tu ne me vois plus. Si tu entendais, tu n'entends plus. Est-ce que tu m'aimes encore ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Le désert, il est fait pour ça, pour éduquer notre cœur à l'amour. Osée, chapitre 2. Voilà que je vais attirer au désert mon épouse infidèle. Et là, je lui parlerai cœur à cœur. Oui, ça va se passer au désert. Alors laissons Dieu faire, mais persévérons. Persévérez. On se rappelle le combat de Moïse contre Amalek dans Exode 17, où Moïse il est en haut de la montagne avec Aaron et Hur qui lui tiennent ses deux mains pour qu'il intercède. Et quand il en a marre, quand c'est trop pour lui, il baisse les bras et c'est Amalek qui gagne en bas. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Jésus dit même, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire marmonner des prières. Ben non, c'est pas ça. C'est une attitude intérieure. Prier sans cesse. Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Prier constamment, jour et nuit. Ça marche ? Ben oui, parce que quand vous êtes amoureux, en principe, eh bien, c'est jour et nuit, ou est-ce qu'il y a des moments où ça s'arrête ? Bon, en gros, c'est la même chose. Que l'amour, en nous, brûle toujours notre cœur. Et ça, ça s'appelle la prière. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes. C'était ça notre prière de chaque instant. Où je m'éveille à ton amour, à ta présence. 1 Thessaloniciens 5, 16, 17. Vous connaissez tous par cœur. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toute chose, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire au Seigneur. Voilà. 1 Thessaloniciens 5. Priez sans cesse. Mais soyez toujours joyeux. Ce n'est pas que vous avez fait la fête et que vous êtes toujours. Ce n'est pas cette joie-là. C'est la joie de l'amour. Quand tout va mal, vous pouvez garder cette joie de l'amour. C'est quand vous arrêtez d'aimer qu'il n'y a plus de joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Mais oui. Quand il n'y a plus ni la foi, ni l'espérance, ni l'amour, il n'y a plus de joie. La clé, commençons par l'amour. Si vous êtes en communauté et qu'un jour vous n'avez pas le moral, vous faites la tête. Eh bien, j'ai un truc, moi, que j'ai expérimenté. Mettez-vous à servir, multiplié par deux. Vous allez retrouver la joie et le sourire. Ben oui, dès qu'il y a de l'amour, il y a de la joie. Et il s'agit de persévérer. Donc, cette loi de la prière, la persévérance, je cite un peu pêle-même maintenant, l'unité, la prière, c'est pas juste Jésus et moi, moi et Jésus, moi et Jésus. Non, la prière, c'est une ouverture à celui dont le cœur est ouvert au monde entier. Alors, il y a une prière qui est très belle aussi et qui est enseignée par l'ange de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Autrement dit, la prière n'est jamais un exercice solitaire que nous allons faire, mais elle est un exercice de communion avec Dieu qui nous met en communion avec le monde entier. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, au Mont Athos, ils écoutent la télé et les informations, mais ceux qui prient sans cesse, en principe, sont au courant des événements dans le monde. Parce qu'il y a cette ouverture du cœur. Et le Saint-Esprit montre dans quel sens il faut prier. La prière est une ouverture à plus large que nous. Donc aujourd'hui, on a de quoi faire. Bon, nous allons prier pour nos familles aujourd'hui, mais prions plus large. Vu les événements très difficiles dans le monde, qu'est-ce qui se passe un peu plus à l'est, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que notre prière, eh bien, ne soit jamais une prière solitaire, mais qu'elle nous entraîne dans la communion. Et enfin, notre prière, vérifions, et je dirais que là je dis la même chose, hein, puisque dans ce dernier point, on va résumer tout à l'heure, il s'agit d'aimer Dieu parce qu'on va persévérer, et d'aimer les autres parce qu'on va s'ouvrir aux autres, et on va vérifier un point. C'est ce que l'Évangile appelle l'amour des ennemis. Si dans notre cœur, il y a des pardons qui ne sont pas donnés, et parfois ça nous arrive, ou des pardons mal donnés, là ça nous arrive plus souvent, alors ne soyons pas étonnés que notre prière soit sèche, que notre prière n'avance pas vraiment. Car la prière, c'est une respiration d'amour. Vous voyez, on est loin de ce qui se vend sur Internet. Essayez cette prière de délivrance, elle est efficace. Bon, on peut mettre ça au panier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des formules, bien sûr, mais que notre cœur soit dans la prière. Pour que nos cœurs soient dans la prière, il nous faut intégrer à notre vie de prière l'oraison. Prenons chacun le temps du silence avec Dieu, l'oraison. Si votre oraison elle consiste juste à lire la parole de Dieu du jour et faire une méditation, vous n'êtes pas encore en prière, vous avez juste médité. C'est bien, mais c'est un exercice préparatoire à la prière. L'oraison, bon, minimum, on va dire, il y avait un livre des années 70, 15 minutes pour Dieu, un truc comme ça. Bon, prenez un minimum, le matin notamment. Ne me dites pas, mon père, j'ai pas le temps. Prenez le temps, quitte à le prendre sur le sommeil. Pas 3 heures, mais un temps de silence. Vous allez voir, c'est comme si vous mettez du carburant et puis vous mettez le turbo. Sinon, vous partez avec vos réserves personnelles, sauf si vous avez prié toute la nuit. Bon, non, enfin bon. Moi, je vous conseille vraiment cette prière dès le matin et vérifiez que vous priez aussi pour vos ennemis. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. On va juste dire une toute petite prière pour les ennemis. Seigneur, plein d'amour pour les âmes, toi qui as prié pour ceux qui t'ont crucifié et as ordonné à tes serviteurs de prier aussi pour les ennemis, pour ceux qui nous haïssent et nous persécutent, pardonne-leur et conseille-leur de se détourner de tout mal et de toute tromperie et de vivre pour l'amour fraternel et le bien. Nous te disons humblement cette prière afin que, d'une seule voix, et en une seule pensée, nous te louons, toi qui es plein d'amour pour les hommes. Amen. Alors, on va donc faire une petite conclusion. Les portes de la prière, vous avez retenu. Première porte de la prière, les vertus théologales. Allons-y, la foi, et la charité. cette charité qui est en nous, ce désir de Dieu, cette crainte de Dieu et cet élan spontané vers celui qui est notre Père, la foi qui nous fait adhérer à celui que nous ne voyons pas. Et on va lui dire « Jésus, j'ai confiance ». Et on va rester notre quart d'heure, notre demi-heure, l'heure, même si on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Seigneur, je m'expose à ta présence. Ça, c'était notre première condition. La deuxième condition, c'était l'écoute. Shema Israël, cette décision aussi de pratiquer le silence, de mettre en pratique les commandements de Dieu, nous choisissons notre camp. Car l'amour, c'est tout ou rien. On est d'accord ? C'est tout ou rien. C'est pas bon, je prends ce commandement, puis je laisse celui-là. Non, c'est tout ou rien. Voilà. Et la troisième condition, nous l'avons dit, c'est l'humilité. Savoir se reconnaître, eh bien, avec nos limites, aussi avec nos péchés. Vous savez, l'Écriture, on trouve ça dans la lettre de Saint Jacques, dit « Reconnaissez vos fautes les uns devant les autres ». Ça, ça peut être un petit critère de l'humilité. Quand quelqu'un vient me dire « Écoute, je crois que tu t'es trompé. » Bon, en fait, on n'arrive jamais à nous le dire suffisamment gentiment. Donc souvent, c'est difficile, hein. Oui, tu t'as fait une erreur là, puis je ne suis pas d'accord avec toi. Vous voyez, on a un peu de mal, l'humilité, c'est un peu difficile. Reconnaître qu'on peut faire aussi des erreurs, même des péchés. Et c'est notre vieil homme, c'est pas nous. Hein. Que nous sommes cachés avec le Christ en Dieu. Okay, le vieil homme, on le renie. Saint François de Sales hein, qui disait, mais pourquoi vous en voulez aux gens qui disent du mal de vous ? Sont vos meilleurs amis qui puissent se mettre avec vous contre votre pire ennemi, le moi. Donc tout va bien, l'humilité. Et donc une clé, c'est la confession. Confession. D'accord ? Et enfin, donc, les autres attitudes essentielles, c'est en fait des lois de l'amour. On va persévérer, non, on ne va pas s'arrêter juste parce que c'est difficile. On va prier, mais plus large que nous, l'unité, en unité avec notre famille, avec l'Église, notre paroisse, etc. Et puis, effectivement, la miséricorde. Nous prions pour nos amis. C'est une belle clé aussi de délivrance. Vous savez, quand la délivrance n'arrive pas, eh bien, peut-être qu'il y a un de ces points qui n'est pas en place. Quand la délivrance n'arrive pas dans ma vie, c'est peut-être qu'il y a des pardons que je n'ai pas vraiment donnés. Peut-être aussi que je ne suis pas vraiment converti. Il y a des choses que je n'ai pas vraiment accueillies dans la loi de Dieu, peut-être. Et je peux continuer dans un manque d'humilité, de douceur, alors que je suis à l'école de Jésus, doux et humble de cœur. Voilà. Alors, c'est dément, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans votre prière, peut-être une dernière chose. Vérifiez que votre prière, c'est pas simplement « Seigneur, j'aimerais bien tel truc, tel truc, tel truc ». Vérifiez qu'il y a la bonne dose de louange et d'adoration. On en parlera sans doute la prochaine fois. Parce que si notre prière, c'est « Seigneur, je voudrais tel truc, tel truc, tel truc », on n'est pas encore dans la connexion. Parce que la connexion, elle se fait par la foi, l'espérance. Et la charité. Donc, ce qui fait que nous sommes toujours dans la prière, c'est que sans cesse, nous proclamons la victoire de Jésus. Je crois que c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors, restons dans cette atmosphère nous proclamons la victoire de Jésus. Sinon, ça sera difficile de prier, effectivement. Allez, on va, pour terminer, lire ce commentaire de saint François du Notre Père. Alors, je vous invite à vous lever. Nous prions le Notre Père avec saint François. Ô notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Consolateur, qui es aux cieux, dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu'ils te connaissent, car toi, Seigneur, tu es lumière, les enflammant pour qu'ils t'aiment, car toi, Seigneur, tu es amour. Habitant en eux et les comblant de béatitude pour qu'ils aient le bonheur, car toi, Seigneur, tu es souverain bien, bien éternel, de qui vient tout bien, sans qui n'est aucun bien. Que ton nom soit sanctifié, que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements. Que ton règne vienne, règne en nous dès maintenant par la grâce. Introduis-nous un jour en ton royaume, où sans ombre, enfin, nous te verrons, où deviendra parfait notre amour pour toi, bienheureuse notre union avec toi, éternelle notre jouissance de toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que nous t'aimions de tout notre cœur en pensant toujours à toi, de toute notre âme en te désirant toujours, de tout notre esprit en dirigeant vers toi tous nos élans et ne poursuivant toujours que ta seule gloire, de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies et tous les sens de notre âme et de notre corps au service de ton amour et de rien d'autre. Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes, en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir, en partageant leur bonheur comme s'il était le nôtre, en les aidant à supporter leur malheur, en ne leur faisant nulle offense. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions nous rappeler, mieux comprendre et vénérer l'amour qu'il a eu pour nous et tout ce que, pour nous, il a fait, dit et supporté. Pardonne-nous nos offenses par ta miséricorde ineffable, par la vertu de la passion de ton Fils bien-aimé, par les mérites et par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les élus. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ce que nous ne pardonnons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement, que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi, que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux, qu'à personne nous ne rendions le mal pour le mal, mais que nous appliquions de faire du bien à tous en toi. Et ne nous soumets pas à la tentation, qu'elle soit manifeste ou sournoise, soudaine ou lancinante et prolongée. Mais délivre-nous du mal, passé, présent et futur. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.